I have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Jacques Aristide de Washington, bienvenue dans l'Amérique et vous. Ce soir, nous braquons les projecteurs sur Boeing et le crash d'un de ses avions en Éthiopie. L'avionneur américain est-il dans la tourmente après deux accidents tragiques en moins de 5 mois impliquant son appareil MAX 737 ? Quels sont les rapports entre Boeing et Washington ? Et quid de la crédibilité de la FAA, le régulateur aérien américain ? Autant de questions que nous allons tenter de répondre avec nos invités. Vos questions et commentaires en direct au 001 202 205 26 23. Accueillons nos invités en ligne de Paris, Bertrand Villemer, ingénieur aéronautique et spatial, pilote de ligne, expert judiciaire aéronautique près la Cour d'appel de Paris, PDG d'Icar Aéronautique. Également de la capitale française, Xavier Tittelmann. Il est ancien aviateur militaire, spécialiste de la sécurité aérienne et consultant en économie de l'aérien. Il est également fondateur du Centre de traitement de la peur de l'avion et auteur du blog Sécurité aérienne et peur en avion. Ici à Washington, nous avons le plaisir de retrouver l'économiste Amadou Cissé. Le plaisir également d'accueillir à nouveau sur notre antenne Léonard Wanchekon, professeur de sciences politiques et d'économie à l'université de Princeton. Je commence par vous, Amadou Cissé. Quelles sont d'après vous les répercussions financières pour Boeing, qu'il faut le dire, est le fleuron de l'industrie américaine?
Oui, bonjour.
Bonsoir, Amadou. Comment allez-vous?
Oui, ça va très bien. Bon, voilà, Boeing est le fleuron de l'industrie américaine. Et voilà, à ce titre-là, Boeing, est très importante pour les États-Unis. Très important, je veux dire, pour les États-Unis. Donc, cette catastrophe l'affecte au premier chef. Ça fait, tout d'abord, ce qui a été mis en cause, on parlait d'un logiciel qui doit être modifié. Alors, cette modification va entraîner des coûts directement à Boeing. Et aussi, les compagnies aériennes risquent de lui demander des indemnités pour les avions qu'elles ne peuvent pas utiliser. Au-delà de tout ça, c'est la place centrale que Boeing occupe dans l'industrie américaine. C'est une très, très grosse entreprise. Et la santé économique des États-Unis s'en ressentira naturellement. Alors voilà d'ailleurs pourquoi il y a eu des réticences, d'interdire de vol les avions mis en question. Ça a été fait finalement. Et puis en dernière position, je dois mentionner aussi les tensions, commerciales entre Boeing et puis Airbus. Voilà, ce sont les deux dans un duopole qui domine le monde aérien. Bon, avec l'avantage toutefois, à Airbus qui a, je crois, environ 60% des parts de marché. Mais Boeing qui est, une société qui est beaucoup sur l'offensive. Et voilà, donc voilà un rapide tour d'horizon pour montrer l'importance de Boeing aujourd'hui.
Mm-hmm. Dans l'attente que les boîtes noires du Boeing 737 MAX d'Ethiopian Airlines dévoilent le scénario de l'accident qui, je le rappelle, a fait 150 morts dimanche dernier, l'avionneur américain a annoncé la suspension des livraisons des avions actuellement en production. Léonard Wanchekon, quid de la réputation de Boeing?
Oui, bon, je pense que le collègue Amadou Cissé a pratiquement tout dit. Hein. La réputation de Boeing en a pris un coup, mais je pense que avec le temps et avec le fait qu'elle a quand même une bonne part du marché, au moins aux États-Unis, donc elle pourra se rattraper avec le temps. Mais moi, j'aimerais qu'on parlera de ça. On va peut-être en parler par la suite. Le problème le plus important ici, vraiment, c'est le fait que la sécurité donc des voyageurs a été soumis, disons, à un jeu politique, donc entre le gouvernement américain et la compagnie Boeing, quoi. Donc je pense que c'est vraiment le
oui.
L'une des inquiétudes qui, en tout cas à mon niveau, qui sort donc de ce qui s'est depuis quelques jours.
Oui, on va y revenir. Bertrand Villemer, bonsoir. L'enquête sur les causes du crash de ce Boeing 737 MAX 8 en Éthiopie a débuté ce vendredi à Paris. Qui mène cette enquête, qui participe et comment va-t-elle se dérouler? En fait, nous avons Xavier Tittelman. Xavier Tittelman, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, en fait, je voulais adresser cette question à vous. Donc, qui mène cette enquête, qui participe et comment va-t-elle se dérouler?
Alors, l'Éthiopie, pour une question de neutralité, a voulu que cette fois-ci, ce ne soit pas les États-Unis qui soient impliqués dans l'enquête, comme c'était le cas à l'époque de Lion Air, et a fait appel au BEA, donc qui est le bureau enquête-analyse français, qui est, avec les États-Unis, les deux plus grandes entités pour faire des analyses après les accidents. Donc, les boîtes noires sont arrivées en France, certainement qu'elles sont en train d'être analysées, et on aura certainement des réponses qui vont être relativement rapides, sachant qu'on a déjà également des éléments de réponse avec les analyses qui ont pu être faites, même en source ouverte, c'est-à-dire que les avions envoient leurs informations et en temps réel, on est capable de savoir où se trouve un avion et quelle est sa situation. Et là, on a des corrélations qui sont quand même assez troublantes avec une évolution de l'appareil, avec une mise en descente qui a l'air non maîtrisée pile au même moment et qui correspond en fait au moment où les avions vont rentrer leur volet, donc quand on arrive en vol de croisière. Et c'est quelque chose qu'on observe à la fois sur le crash de Lion Air et du vol éthiopien. Donc il est certain que même si on n'a pas encore de certitude absolue, la simple analyse des données qui sont déjà disponibles et les premières annonces qui disent que la position des volets était la même sur les deux crashs, donc on est vraiment sur les choses qui ont permis à la quasi-totalité du monde de clouer l'avion au sol avec une pour vraiment mettre un principe de précaution qui est universel dans le domaine de l'aéronautique.
Mmh. Deux auditeurs au téléphone, en ligne, Alphonse Boaki à Kinshasa. Alphonse, bonsoir, votre commentaire, votre question.
Moi je pense que si on ne trouve pas réponse à la faille technique de l'américain Boeing, cela va entamer la crédibilité de l'appareil. Et puis aussi, vous savez que les Boeing
Alors Alphonse, je dois dire que la ligne malheureusement est très mauvaise, on vous entend à peine. Direction Dakar, Sénégal, où on a au téléphone Aruna Baldé. Aruna, en fait j'ai lu votre commentaire sur la page Facebook, bon, on vous écoute, votre commentaire et votre question, rapidement.
Voilà, bonsoir à tous vos auditeurs. Alors, à l'instar de tous les autres pays qui ont pris cette décision d'interdire le Boeing MAX 737 de circuler dans l'espace aérien, les États-Unis aussi ont bien réfléchi vraiment de prendre cette décision aussi. Alors, pour moi, ma question est la suivante. D'après l'examination de ces boîtes noires, quelles seront les sanctions judiciaires et financières, puisque c'est la deuxième fois dans l'espace de 5 mois qu'on a vécu vraiment de ces crashs d'avions de tel genre, en quelque sorte.
Xavier Tittelman, pouvez-vous répondre à cette question? Les sanctions sur le plan judiciaire et financier?
Alors, quand il y a une responsabilité qui est avérée, que ce soit, à ma connaissance, le constructeur ou la compagnie aérienne, ça ne change pas grand-chose. Il y a à peu près des pénalités qui vont s'élever au niveau judiciaire à $1 million par mort. Donc là, on sait qu'il y a déjà plus de 300 victimes, autour de 300 victimes en tout cas à cause de cet accident. Si juridiquement les États-Unis et Boeing sont reconnus comme responsables de ces accidents, on peut s'attendre à ce que Boeing doive payer au moins $300 million. Sachant que aux États-Unis, dans les procès, plus l'entreprise est riche, plus les pénalités peuvent être élevées. Donc la base de $1 million par mort, c'était sur des petites compagnies qui ont fait faillite par la suite. On sait que Boeing a des ressources qui sont beaucoup plus importantes, donc on peut imaginer qu'en tout cas les familles vont demander peut-être des montants qui vont être encore plus élevés. Et la deuxième dimension, c'est le fait que l'avion soit cloué au sol partout dans le monde. Boeing va devoir rembourser aux compagnies aériennes entre 10 et 20 millions de dollars par jour d'immobilisation.
Oui. Amadou, si c'est la crise chez Boeing, va-t-elle changer les rapports de force dans le ciel mondial? Modifie-t-elle fondamentalement le rapport de force entre l'Américain et son grand rival Airbus, d'après vous?
Ah oui, sans faute, cela va sans dire. Parce que, comme je le notais tantôt, les deux compagnies sont dans un duopole qui domine l'espace aérien mondial, avec une avance de Airbus. Et maintenant que Boeing a ses problèmes de réputation, parce que pour les questions de sécurité, finalement la réputation, parce que nous sommes dans un siècle de l'information, et la réputation est beaucoup plus importante que les faits pointus eux-mêmes. Donc ça risque vraiment de peser très lourd pour Boeing, parce que tout d'abord, il peut perdre des parts de marché à Boeing, à Airbus qui a déjà une avance. Et ensuite, surtout le plus grand problème, c'est la Chine. La Chine qui est le pays qui a, je crois, à peu près plus du quart des commandes, disons, de cet avion précis, le Boeing 737. Et voilà qui est le pays le plus disant en matière de, disons, des destinées de Boeing, parce que si la Chine s'inquiète de la sécurité de ses avions, alors non seulement ses commandes vont, disons, en pâtir, mais aussi les commandes des autres pays qui vont régler leurs attitudes sur la Chine. Alors, donc, il y a beaucoup, beaucoup à perdre. Et je dois dire une chose que je n'avais pas dite auparavant, c'est que Boeing, c'est le plus grand exportateur américain. Donc, il est très important pour l'économie américaine. Et puis, je dois aussi dire une chose, c'est que c'est aussi l'un des plus grands contracteurs de défense des États-Unis. C'est extrêmement important. On ne peut pas séparer Boeing, disons, de la géopolitique des États-Unis. On ne peut pas séparer Boeing, en fait, de la géopolitique mondiale, parce que rappelons-nous que nous avons un problème de tension commerciale entre les États-Unis et la Chine, où les États-Unis se sont imposés au début, la Chine est revenue avec des arguments percutants, et maintenant, le dernier exemple, c'est celui-ci. Mm-hmm. Où, donc, laissez-moi résumer en disant que Boeing risque vraiment gros. Mm-hmm.
Leonard Wanchekon, tout à l'heure, vous commencez à aborder un point. Alors, il y a les autorités américaines qui ont résisté jusqu'à la dernière minute avant de clouer au sol à leur tour ce modèle d'avion de Boeing. Une résistance, d'après certains, qui pourrait s'expliquer par les liens étroits avec Boeing et sa puissante machine à lobbying ici à Washington. Professeur Wanchekon, le 737 MAX illustre-t-il les relations justement étroites et floues entre Boeing et Washington, d'après vous?
Oui, absolument. Je pense que la question de l'interférence entre le monde des affaires et le monde politique s'illustre très bien par le retard ou du moins la lenteur avec laquelle le gouvernement américain a réagi donc, à la décision, enfin réagi à la catastrophe qui a eu à Ethiopian Airlines. Et je pense que je vais profiter pour souligner le fait que ce n'est pas seulement un problème américain, c'est aujourd'hui un problème mondial, quoi. Donc, où de plus en plus, pour accaparer des parts du marché, pour pouvoir avoir des avantages assez importants, les grands hommes d'affaires, les grandes compagnies investissent dans les élections, investissent dans les candidats et rentrent même dans les instituts de régulation. Et donc, c'est quelque chose qui illustre bien ce phénomène-là. Et j'espère que cela va montrer de plus en plus que voilà, quelque chose doit être fait. Donc, pour que, en fait, pour limiter, en fait, l'influence et l'interférence du monde des affaires dans la politique, quoi, et dans la décision de politique publique.
Vous écoutez l'Amérique et vous sur VOA Afrique, au micro Jacques Aristide. Nous parlons du crash qui s'est déroulé récemment en Éthiopie. Au téléphone, un autre auditeur avec nous maintenant. Allô? Oui, bonsoir. On vous écoute.
Bonsoir, monsieur.
Oui, on vous écoute. Votre question.
Bon, en fait,
c'est
moi,
Félix Chassonnant.
En fait, il y a trois questions, mais je vais laisser tomber deux. Celle que j'aimerais poser, j'aimerais savoir, est-ce qu'avec les difficultés que Boeing a actuellement, avec les compagnies aériennes, est-ce que Boeing va arrêter la production de ses 737 Max?
Oui, Xavier Tittelman, en fait, on l'a vu dans les dépêches aujourd'hui. Bon, c'est vrai que là, les vols, les avions ont été cloués au sol, mais Boeing a précisé que la production ne va pas cesser, n'est-ce pas, Xavier Tittelman?
Plus de 80% des commandes de l'avionneur pour les prochaines décennies. Donc déjà, s'ils renoncent à cet avion, ils renoncent à 80% de leurs commandes, ce qui est impossible. Ensuite, on est quand même sur un appareil qui fonctionne très bien en dehors de ce problème qui est objectivement et malheureusement un problème facile à régler. Et la preuve en est, c'est qu'ils ont l'obligation de le régler avant la fin du mois. C'est l'autorité américaine de régulation qui leur a demandé. Parce qu'on n'est pas sur un changement d'un système technique profond, comme par exemple quand en 2013, on avait l'avion précédent qui était sorti, le Boeing 787 Dreamliner, qui avait été cloué au sol. On avait dû changer les batteries. C'était des opérations qui étaient beaucoup plus lourdes et qui impliquaient vraiment une mise au hangar avec des travaux qui étaient compliqués. Là, on va apporter une modification qui va quasiment être que logicielle. Les ingénieurs de Boeing vont faire le tour du monde et vont aller dans chaque appareil pour mettre à jour le système pour qu'il n'y ait plus cette panne. Ça va être presque, je vais dire, facile et malheureusement, ils ne l'ont pas fait plus tôt. Donc, cet avion, il va retrouver son habilitation à voler en toute sécurité et il va commencer à revoler à la fin du mois et la production de l'appareil va reprendre. Néanmoins, là, c'est vrai qu'on ne peut plus exporter l'avion, déjà parce qu'il est interdit de vol. Moi, j'étais à Seattle l'année dernière dans les usines de Boeing. Clairement, ils ont leur propre aéroport. L'avion est sur l'espace aérien américain. Vu que l'avion ne peut pas être dans l'espace aérien américain, il est interdit d'export parce qu'il est interdit de vol sur le territoire.
Alors, puisque vous parlez des usines de Boeing, alors il y a une commission parlementaire présidée par un démocrate qui a promis d'examiner le processus de prise de décision de la FAA, qui fonctionne en toute indépendance d'après son patron par intérim. Il s'agit de Dan Elwell. Il reste que la FAA, d'après certains, alors d'après du moins les dépêches que nous voyons, dispose de bureaux dans les usines de Boeing, notamment à Renton dans l'État de Washington, où est assemblé le 737 Max, et en Caroline du Sud, fief du long courrier 787 Dreamliner, d'après certaines sources. C'est l'AFP qui le rapporte. Alors, et ces relations entre la FAA et Boeing, qu'en pensez-vous, Xavier Tittelman, cette crédibilité de la FAA, le régulateur aérien américain? Vous pensez que cette crédibilité a pris un coup après ce crash?
C'est un petit peu compliqué. Évidemment, ils ont laissé passer une situation qui aurait pu être évitée. Néanmoins, alors là, je vais me placer du côté des défenseurs de Boeing et de la FAA, c'est-à-dire qu'on a un avion d'un point de vue ingénierie qui est tout à fait performant et le système qui a été mis en place était censé protéger l'avion. Donc c'est vraiment l'autorité de sûreté américaine qui a demandé au constructeur de mettre en place un système de protection qui évidemment se déclenche au mauvais moment. Donc la problématique est là. Néanmoins, la présence de la FAA auprès de Boeing, c'est aussi une façon de les contrôler. On a les autorités de sûreté aéroportuaire qui sont en contrôle permanent et qui sont là pour vérifier que Boeing fait bien son travail. Donc s'ils sont présents pour suivre les certifications, pour voir qu'il n'y a pas de bug, pour voir que tout le monde travaille bien, qu'il y a peut-être faire des contrôles de l'alcoolémie auprès des employés, je ne sais pas exactement ce qu'ils font, mais disons que c'est cohérent et logique que les autorités américaines contrôlent l'avionneur pour être sûr qu'on est dans des bonnes conditions de travail. Ça, c'est vraiment un premier point. Et ensuite, pourquoi est-ce qu'on n'a pas interdit de vol l'avion plus rapidement? C'est que d'un point de vue pilotage, c'est une panne qui est gérable. Et on le voit, cette panne a été gérée plusieurs fois aux États-Unis. Sur l'avion de Lion Air, avant le crash, les trois vols précédents, les pilotes ont réussi à maîtriser cette situation parce que c'est une panne qui est gérable et qui se gère de la même façon depuis les années 60 avec le Boeing 707. Donc ça remonte très très loin. Là, le problème, c'est que cette panne est devenue beaucoup plus récurrente à cause de ce système, alors qu'avant elle était quasiment inexistante. Mais l'apprentissage de la gestion de ce qu'on appelle le compensateur qui se mettrait par erreur en piqué, en descente, normalement c'est quelque chose que tout pilote doit savoir maîtriser. Et donc l'autorité américaine a dit, mais si vous êtes bien formé, cette panne-là, vous savez la gérer, donc je n'ai pas besoin de couler ma flotte au sol.
Oui.
C'est un petit peu ça, en logique.
Voilà. Bertrand Villemer a pu nous joindre maintenant en direct de Paris. Je l'ai présenté déjà en début d'émission. Bertrand Villemer, on a parlé de beaucoup de choses, mais il y a une question que je voudrais vous poser. Boeing devrait modifier dans une dizaine de jours, d'après certains médias, le système anti-décrochage MCAS, mis en cause de l'accident du 737 MAX 8 de Lion Air en octobre dernier. Il se pose toutefois une question de logistique. Les compagnies aériennes clientes doivent-elles renvoyer les avions à Boeing ou alors l'avionneur doit-il se déplacer vers un site choisi par ses clients pour effectuer les changements?
Tout d'abord, bonsoir à tous lors de Paris. Et puis je vais certainement faire des redites parce que désolé, j'ai pas pu me libérer avant.
Et malheureusement, l'émission se termine dans 4 minutes environ. Vraiment dommage. Mais allez-y. Mais parlez-nous de ça et peut-être des derniers développements, rapidement.
Moi, de ce que j'ai entendu, le problème, il y a un problème de conception et un problème de certification. Et le problème de conception, c'est que le MCAS n'est pas tolérant à une simple panne. Et ça, c'est pas acceptable au plan de la certification. Et c'est le fait de cette non-tolérance à une simple panne qui n'est pas acceptable sur le plan de la certification. Maintenant, pour répondre à votre question, une fois qu'ils auront trouvé la méthode pour reprendre l'ensemble du logiciel et pas seulement que le patch MCAS qui est dû à la modif aérodynamique, notamment en matière d'attaque directe de la gouverne, ce qui est quand même assez bizarre en matière de pilotage. Alors une fois qu'ils auront trouvé ça, ils peuvent très bien faire une modification de logiciel sur n'importe quel type d'appareil ou que ce soit. Il n'y a pas besoin d'une grosse logistique, je pense pas.
Et en termes de réparation, de dédommagement, que voyez-vous?
Là, je crois que Boeing, c'est une grosse machine. Il y aura probablement des reports de commandes, des échanges entre peut-être du 777 et du 737 MAX. Il y aura peut-être un peu comme ce qu'a fait Norwegian, l'exploitation d'appareils de la génération précédente. Mais ce n'est pas ça qui va affecter durablement l'équilibre financier de Boeing, je ne pense pas.
Amadou, si c'est rapidement pour terminer, l'avenir de Boeing?
Venir de Boeing, il faut souligner d'abord le rôle de service public que joue le FAA actuellement, qui finalement ne va plus jouer seul ce rôle-là. L'agence de navigation en Europe va jouer ce rôle, mais surtout, comme je le disais, la Chine. La Chine va être beaucoup plus disante. Ensuite, il faut dire, comme le technicien vient de le dire, c'est un logiciel qui est en cause. Bon, ça pose le problème général de la technologie, de l'utilisation de la technologie. Bon, une boutade, la science, c'est ce que le père enseigne au fils, mais la technologie, c'est ce que le fils enseigne au père. Vous voyez, c'est-à-dire que la technologie non bien maîtrisée constitue un problème aujourd'hui. Mm-hmm. Et c'est tragiquement, ce problème est posé aujourd'hui.
Mm-hmm. Bertrand Villemer, très rapidement pour terminer, peut-être tous les enseignements que nous allons devoir tirer de cela.
Allô. Chose qui est inédite, qui s'est jamais vue dans le transport aérien, enfin les autres intervenants pourront me contredire si ma mémoire me fait défaut, c'est qu'il y a un effet gilet jaune. C'est-à-dire que ce sont les organismes de tutelle qui, sous la pression des syndicats de pilotes, des compagnies, petit à petit ont décidé de couler l'avion au sol. Ça n'a pas été du haut vers le bas, c'était du bas vers le haut. Et la décision de Donald Trump, elle avait déjà été prise par le patron de la FAA parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. C'était une décision de fait de la part des compagnies et des syndicats de pilotes. Les syndicats de pilotes aussi puissants qu'on les connaît en Amérique du Nord, quand ils disent quelque chose au plan technique, il faut les écouter. Parce que c'est eux qui connaissent l'avion. Ce n'est pas les administrateurs et ce n'est pas le constructeur. Ceux qui exploitent l'avion tous les jours, une procédure de secours, il faut qu'elle soit gérable. Il faut qu'elle soit gérable de nuit, au décollage, avec un départ à piquer à 10 degrés. dans des conditions givrantes, c'est ça une pression de secours. Si elle est gérable que dans un ciel clair au niveau 300, c'est pas tout à fait pareil.
Donc, je vous remercie. Merci à tous nos invités, Amadou Cissé, Léonard Wanchekon, Xavier Tittelman. Un sujet que certainement nous allons en parler dans les jours à venir. Voilà, merci. Merci à Michel Joseph, Firmin Koyaweda. Merci à vous. Merci pour tous vos appels et vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. C'était Jacques Aristide de Washington. Je vous souhaite une très bonne soirée. À très bientôt.